Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges au chapitre 11. Et nous continuons notre série dans ce livre et nous allons lire les versets 1 à 28. Juges chapitre 11, les versets 1 à 28. Et voici la parole de Dieu. Jephté, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté, et ils faisaient avec lui des coups de main. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre chef. » Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephté répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephté, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef. « Celui de tous les habitants de Galaad. » Jephté répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephté partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset 12. Jephté envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephté « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Verset 14, Jephté envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Ainsi parle Jephté, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoyait des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa, et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahatz, et combattit Israël. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderas-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Verset 28. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephté lui fit dire. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je pense que vous avez déjà entendu quelqu'un dire une phrase du genre « J'ai déjà pris ma décision, alors ne me dérangez pas avec les faits ». Généralement, la personne dit cela pour rire, parce qu'une personne qui dirait cela réellement serait stupide. Le bon sens suffit pour nous dire que préférer mon opinion ou ma préférence par rapport à la vérité, c'est de la folie, la folie pure. Mais c'est tellement facile pour nous de tomber dans ce piège. Et le conflit ultime, en fait, est entre ce que je ressens et ce que Dieu dit, ou ce que Dieu a dit. L'histoire de Job, par exemple, est un de ces exemples majeurs qui montrent que Dieu n'est pas aussi intéressé par la façon dont nous nous sentons qu'il l'est par notre obéissance à sa parole. Job sentait qu'il avait raison. Job sentait que Dieu était injuste avec lui. Mais après que Dieu lui ait révélé juste une petite portion de sa gloire et de sa majesté, Job, le serviteur de Dieu, répond en Job 42, les versets 2 et suivants, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Beaucoup de chrétiens professants sont d'accord avec cette conclusion de Job. Nous sommes d'accord que s'il y a un conflit, à la fin, c'est Dieu qui est vrai, et nous qui sommes soit ignorants, soit rebelles. Nous sommes d'accord avec cette conclusion jusqu'à ce que nous lisions la fin de l'histoire de Job. Verset 11, au chapitre 42, les frères et sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Notre nature humaine recule devant l'idée que c'est Dieu qui a amené toute cette épreuve sur Job. Non, non, Dieu ne ferait jamais une telle chose. Et pourtant si. Parce que c'est Dieu qui a permis à Satan d'avoir la main libre avec Job. Et on voit combien il est facile d'arriver à des conclusions qui sont basées sur ce que l'on ressent, au lieu d'arriver à la vraie conclusion selon la parole de Dieu. Et Jephté s'est trouvé dans un conflit, dans un tel conflit. Le roi des fils d'Ammon accuse Jephté et les Israélites d'avoir pris son territoire. Jephté lui explique ce qui s'est réellement passé, mais le roi des fils d'Ammon ne voulait rien entendre. Et quand nous sommes face à un conflit, devons chercher à être ceux qui font tout pour d'abord connaître la vérité, plutôt que d'être ceux qui se font leur propre idée et qui ensuite refusent obstinément d'en changer parce que nous pensons que changer est un signe de faiblesse. Alors, premier grand point, la vérité n'est pas toujours facile. Et c'est les 11 premiers versets de ce chapitre 11, petite A, ceux qui prennent des notes. Tous ceux qui sont différents de nous ont tort. C'est une conclusion populaire, n'est-ce pas? Et les contemporains de Jephthé sont arrivés à cette conclusion. Jephthé était un vaillant guerrier, mais il ne correspondait pas tout à fait à la norme acceptable. Verset 1, Jephthé le Galaadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Le terme, le chapitre commence avec cette phrase « Jephthé le Galaadite ». Et en fait, c'est la réponse à la question qui a été posée à la fin du chapitre 10, au verset 18. « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon ?» La réponse, c'est Jephthé. Jephthé est un vaillant guerrier, mais il est aussi fils d'une prostituée, un peu comme Abimélec, le buisson d'épines qu'on a vu au chapitre 10. Et sa famille l'a rejeté parce qu'il ne correspond pas à leur norme. De même qu'Abimélec a été rejeté par les siens. Le père de Jephthé était un membre de la famille noble des Galaadites. Ils ont peuplé la région de Galaad à l'est du Jourdain. Ils n'étaient pas particulièrement méchants. En fait, comparé à notre culture, peu de cultures ont exalté la prostitution et la libération sexuelle comme notre culture le fait, comme les cultures modernes le font. Et bien que les pères, au temps de Jephthé, aient des relations sexuelles en dehors du mariage, les descendances de ces relations étaient souvent bannies. Cela ressemble à l'hypocrisie d'une culture qui a rejeté le vrai Dieu pour servir les faux dieux imaginaires. Et il semble que les gens qui sont rejetés ont tendance à recueillir d'autres personnes qui sont rejetées. Et c'est le cas pour Jephthé, verset 3. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des coups de main. Les frères de Jephthé lui ont fait sentir qu'il était sans valeur. Alors des gens sans valeur se sentaient à l'aise avec Jephthé. On pourrait les comparer à des pirates du désert, de l'ancien temps, des personnes qui faisaient des coups, qui allaient voler, dérober les caravanes, dérober les tentes pour chercher leur nourriture. Cette situation ressemble à celle de David, quand le roi Saül l'a chassé du palais, seulement pour voir des centaines de personnes qui étaient des marginaux dans la société de l'époque, se joindre à David dans la caverne d'Adullam, 1 Samuel chapitre 22. Je me demande si c'est de cette façon que le monde considère les chrétiens, en particulier dans les pays qui persécutent ouvertement et effrontément les croyants. La communion des croyants est très précieuse. Le fait de se retrouver est quelque chose de très précieux. Et plus notre culture devient pécheresse, plus il est important pour nous de nous rassembler avec d'autres chrétiens. Et le monde va conclure que c'est la pratique des marginaux, la pratique des rejetés de la société qui se retrouvent un dimanche matin ou un mercredi soir. C'est un terrible exemple d'hommes pécheurs qui disent que la lumière est ténèbre et que les ténèbres sont lumière. Jephthé a été exclu pour des raisons évidentes, mais Dieu avait l'intention d'utiliser cet homme dans son œuvre. Petit b, l'Éternel a réveillé les fils d'Ammon contre Israël. Verset 4, quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Ce n'est pas une coïncidence que les fils d'Ammon ont fait la guerre à Israël. On a vu en Juges chapitre 10, verset 6, que c'est la première fois dans cette partie de l'histoire d'Israël où lorsque Israël a choisi d'adorer les faux dieux, il s'est tourné vers les dieux, les faux dieux d'Ammon, des fils d'Ammon. Et l'histoire de l'homme pécheur révèle souvent que le péché avec lequel l'homme a flirté, avec lequel l'homme a joué, ce péché devient son maître et finalement son destructeur. Et l'oppression de la part des fils d'Ammon était bien le plan de Dieu pour son peuple. Et en réponse à l'œuvre de Dieu, les chefs de Galaad se sont tournés vers le vaillant guerrier qu'ils avaient pourtant rejeté. Verset 5, comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Cette offre de la part des chefs de Galaad semble être plutôt osée et elle est surtout hypocrite. On ne voit pas de preuve d'une confession de péché, de leur péché envers Jephté. On ne voit pas de preuve qu'ils demandent le pardon. Mais là encore, l'hypocrisie était un trait commun pour ces chefs qui rejetaient Dieu de la même manière qu'ils avaient rejeté Jephté. Et on ne peut pas passer à côté de la preuve évidente de l'hypocrisie si on suit simplement la séquence de ce jugement de Dieu. D'abord, quand les fils d'Ammon ont commencé à semer le trouble, il y a eu une confession de la part du peuple d'Israël. On l'a vu en Juges chapitre 10, verset 20. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Et Dieu, à leur confession, a réprimandé le peuple d'Israël, toujours au chapitre 10, versets 13 et 14. « Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Et en réponse à la réprimande de Dieu, nous découvrons la repentance parmi le peuple d'Israël. Toujours au chapitre 10, verset 15, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Tout cela est très bien, mais après s'être prétendument réconcilié avec Dieu, qu'est-ce que les chefs ont fait? Ils sont partis chercher l'aide d'un autre homme. Ils sont partis chercher l'aide d'un autre homme, d'un sauveur, d'un libérateur humain. Et ce sauveur humain, ce libérateur que les chefs sont allés chercher, les a mis au pied du mur, verset 7. Jephté répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Et la réponse est plus qu'étrange, verset 8. Les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Ça ressemble à une confession. C'est comme s'il disait, « Oui, nous t'avons chassé, mais nous réalisons maintenant que nous avons besoin de toi. » Mais c'est le même genre de confession de repentance superficielle, hypocrite, que le peuple d'Israël a offert à Dieu maintes et maintes fois dans son histoire. Notre nature humaine est si trompeuse. Et très souvent, nous ne sommes pas meilleurs que ces hypocrites quand il s'agit de confession ou de repentance. Dieu apporte la correction dans la vie de son enfant rebelle. L'homme ou la femme réalise que la correction vient à cause d'une pratique ou d'une habitude pécheresse. Il ou elle confesse, dit à Dieu que sa liaison avec le péché est terminée. Et peu de temps après sa confession, l'enfant est de nouveau dans le même lit avec le péché. Le changement réel n'a pas eu lieu. Et pourtant, le changement réel est nécessaire pour une victoire réelle. Mais ce changement réel ne peut être et n'est que l'œuvre de Dieu, parce que l'homme ne peut pas changer son cœur lui-même. Petit C, l'Éternel allait faire du guerrier rejeté le chef de son peuple. Et nous lisons dans les versets 9 à 11, Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Vous remarquez comment Jephthé, ce fils rejeté d'une prostituée, met Dieu au centre de cette offre. Pour Jephthé, le peuple pouvait faire ce qu'il décidait de faire, mais la victoire appartient à Dieu seul, et que l'Éternel les livre devant moi. Les chefs de Galaad ont fait une alliance avec Jephthé en invoquant Dieu comme témoin. Est-ce que c'est ce même Dieu qu'ils avaient rejeté pour aller servir les faux dieux imaginaires? Jephthé aurait pu penser que leur contrat avec lui n'avait pas beaucoup de valeur. Mais en lisant le texte, on voit que la foi de Jephthé est placée en Dieu et non pas dans les paroles des chefs capricieux de Galaad. Jephthé, lui, il regarde à l'Éternel. « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, que l'Éternel les livre devant moi, alors je serai votre chef. » La vérité dans cet épisode chaotique, c'est que le combat du peuple d'Israël avec les fils d'Ammon est en réalité la bataille de Dieu. Il l'avait créé comme une correction pour son peuple. Il voulait corriger le peuple d'Israël. Que les chefs devaient s'humilier devant l'homme qu'ils avaient rejeté, ça c'était le plan de Dieu. Dieu a humilié le peuple d'Israël devant ses ennemis. Maintenant, il humilie le peuple devant Jephthé. La vérité n'est souvent pas facile parce qu'elle exige l'humilité pour qu'on l'accepte. Mais le deuxième grand point, la perception n'est pas la vérité. Et petit a, encore une fois, perception et accusation. Et il y a un principe important en jeu ici. Il y a un dicton qui dit « la perception est la vérité » ou « la perception est la réalité ». Et cette affirmation est souvent appliquée dans des conflits personnels. Par exemple, si Monsieur A perçoit que Monsieur B est dans l'erreur à cause de ce qu'il a dit, en ce qui concerne Monsieur A, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais qu'en est-il si Monsieur A a mal compris ce que Monsieur B a dit? Qu'en est-il si Monsieur A ne connaît qu'une partie du contexte de la conclusion à laquelle Monsieur B est arrivé? Qu'en est-il si Monsieur A a déjà pris sa décision sur la question, et donc que rien de ce que dira Monsieur B ne pourra le faire changer d'avis? Le cœur humain ne va pas bien, et à cause de cela, il n'arrive pas toujours à des conclusions justes ou équitables. Et Dieu nous apprend par le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et en ayant dit cela, nous avons besoin d'une règle de mesure plus fiable pour la vérité. Alors lisons la conclusion de l'évaluation de Jérémie, toujours chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Nous pouvons être sûrs que lorsque Dieu donne une instruction sur une question, lorsqu'il commente une question, lorsqu'il révèle sa volonté sur une question, ça, c'est la vérité. Et donc, il faut conclure que la perception humaine n'est pas la vérité. Souvent, ce que je perçois comme étant une évidence n'est pas du tout une évidence. Ce que je perçois comme étant la seule conclusion possible peut être en fait l'erreur. Je ne connais pas toujours toutes les facettes d'une histoire. Je ne connais pas non plus tous les contextes que les personnes ont traversés pour arriver à leur conclusion. Et à cause de ces réalités, il est toujours plus rassurant de trouver une déclaration définitive de la part de Dieu sur une question particulière. D'où l'importance d'étudier la parole, d'être imprégné de la parole de Dieu, afin d'appliquer les principes de Dieu sur un plan général ou ses déclarations particulières sur une question bien précise. Alors appliquons ce principe à l'histoire de Jephté. Jephté avait besoin de savoir pourquoi ce conflit existait. Verset 12. Jephté envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» La première étape dans la résolution d'un conflit, c'est de découvrir la cause de ce conflit. Et cela demande, pratiquement toujours, de la communication. Dans les conflits très sérieux, on demande aux médiateurs de poursuivre la communication parce que crier ou menacer ne sont pas synonymes de communication. La question simple est « Quel est le problème ?» La réponse simple à cette question, ce n'est pas « Tu sais quel est le problème ?» Même si c'est la réponse que l'on entend le plus souvent. Mais dans cette affaire, la majorité ne détermine pas la réponse correcte. Quand on pose la question au sujet de la cause d'un conflit, quelqu'un doit expliquer cette cause. Et dans le conflit de Jephté, la cause remontait à plus de 300 ans. Verset 13, le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephté, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays. » L'accusation de l'adversaire était que lorsque Moïse a conduit le peuple d'Israël vers la terre de la promesse, le peuple a pris un territoire appartenant aux ancêtres des fils d'Ammon. Alors il est vrai que le peuple d'Israël a traversé cette région quelques siècles auparavant, nombre 21. L'objet de ce conflit, l'objet de cette accusation, c'était une région entre les rivières Arnon et Jabbok. Les chefs des fils d'Ammon le disent à la fin du verset 13, « Depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain, rends-le maintenant de bon gré. » Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Il est vrai que Dieu avait donné une partie du territoire dans cette région comme héritage à la tribu de Ruben et à la demi-tribu de Manassé, mais leur possession était à l'ouest, contre la mer morte. Alors comment fait-on pour gérer une accusation que vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? Comment gérer n'importe quelle accusation? À un moment donné, la vérité doit faire surface, d'où petit b, la vérité révélée. Et Jephté prend le temps pour bien expliquer ce qui s'est passé. Il envoie des ambassadeurs, des messagers pour livrer une lettre officielle remplie de l'autorité de Jephté. Verset 14, Jephté envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon. Et son argumentation a quatre points. Un point historique, un point théologique, un point personnel et un point chronologique. D'abord le point historique, versets 15 à 22. Le fait était que le peuple d'Israël n'a jamais pris le territoire des fils d'Ammon. Verset 15, pour lui dire, « Ainsi parle Jephté, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. » Quand on relit l'histoire, on voit que le peuple d'Israël avait demandé la permission de traverser Édom et Moab, mais leur demande a été refusée. C'est ce que Jephté leur dit. Verset 16, « Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. » Alors Israël envoyait des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Kadès. L'histoire montre que le peuple d'Israël a contourné Édom et Moab par l'est et est arrivé à la rivière Arnon, verset 18. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Et de plus, les faits prouvent que le roi Sion avait décidé d'attaquer le peuple d'Israël, que l'Éternel avait défendu le peuple d'Israël, qu'il avait vaincu. Et cela voulait toujours dire que le peuple du vainqueur possède la terre du peuple vaincu. Israël a donc possédé la terre de Sion, qui n'est pas le pays des fils d'Amon. Israël, verset 19, envoie des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahatz et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. Le fait est que le pays des Amoréens est à l'ouest du pays des fils d'Amon. Verset 22, ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et ils ont été à l'ouest. Voilà des faits historiques de tous ces événements qui s'étaient passés plus de 300 ans auparavant. Deuxième point dans l'argumentation de Jephthé, c'est un point théologique, versets 23 et 24. « Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? L'Éternel a donné le territoire des Amoréens au peuple d'Israël. Les Amoréens ne servaient pas l'Éternel et ils ont été jugés. Ils servaient des Baals, ils servaient les Astartés, d'autres faux dieux imaginaires. Ils auraient dû se contenter de posséder ce que leur Dieu imaginaire leur donnait. Laisser Israël posséder ce que Dieu, l'Éternel, leur donnait. Il y a une implication importante à ce principe. À tous les croyants. Nous profitons de tout ce que Dieu nous donne. Et c'est un argument très important pour nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas particulièrement possessifs des choses terrestres comme les maisons ou des terres. Mais Dieu nous a donné des bénédictions, des promesses éternelles en Christ et dans sa parole. L'ennemi cherche à nous enlever ces choses. L'ennemi insiste que nous avons fabriqué des vérités au sujet du mariage, au sujet du meurtre d'innocents dans le ventre de leur mère, au sujet de l'obéissance aux autorités. Mais ces vérités sont les vérités de la parole de Dieu. Le don qu'il nous a fait, Dieu nous a donné sa révélation. Et nous aimons ces vérités, nous chérissons ces vérités, nous voulons vivre selon ces vérités. Troisième point dans l'argumentation de Jephthé, le point de vue, le point personnel, verset 25. Jephthé argumente, verset 25, « Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre ?» On pourrait paraphraser ça dans les termes plus modernes en disant, « Mais vous vous prenez pour qui ?» Jephthé le rappelle que le roi Balak était plus puissant qu'eux, mais qu'il n'avait jamais osé faire la guerre au peuple d'Israël. Et Jephthé leur dit, mais vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Ils avaient une très haute opinion d'eux-mêmes. Quatrième point, le point de vue, le point chronologique, verset 26. Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Si Israël vivait sur la propriété des fils d'Amon, pourquoi n'avait-il rien fait à ce sujet au cours des 300 dernières années? Pourquoi attendre maintenant? mais parce que cette guerre, c'était le moyen que Dieu allait utiliser pour corriger le peuple qu'il avait choisi. Il n'y a rien de logique à son sujet. Mais la vérité a été révélée. Les arguments étaient solides. Pourtant, petit c, le rejet des faits. L'adversaire refuse l'explication de la vérité de la part de Jephté, ce vaillant guerrier. La vérité, c'est que Jephté et les Israélites n'avaient pas offensé le roi des fils d'Ammon. C'est ce qu'il dit au verset 27. « Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. » Les faits révélaient clairement qui avait tort. Mais plus important que les faits, Jephté a argumenté qu'ils devaient tous laisser l'Éternel, le juge, décider. Est-ce que nous avons le courage de laisser des choses entre les mains de l'Éternel? Nous affirmons que nous voulons faire sa volonté, mais quand il est clair que notre adversaire est dans l'erreur, nous nous jetons sur eux avec toute la force humaine possible. Le roi des fils d'Ammon démontre qu'il n'est pas vraiment intéressé par la vérité. Verset 28, le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephté lui fit dire. La vérité n'est pas facile. Parfois elle a un prix, parfois elle fait mal, parfois elle nous pousse à admettre que nous avons fauté, et elle nous pousse à la repentance. Mais qu'est-ce que l'on fait avec un adversaire qui n'accepte pas la vérité, même après une explication claire? Comme David l'a dit à Goliath en 1 Samuel 17, verset 47, « La victoire appartient à l'Éternel. » Si nous mettons réellement notre confiance en Dieu comme nous disons que nous le faisons, alors nous sommes prêts à laisser les questions qu'on ne peut pas résoudre entre ses mains. Et ce contentement signifie que nous avons besoin régulièrement de nous rappeler. Nous avons laissé cette question entre les mains de Dieu. Comment les autres vont réagir, ce n'est plus notre problème. Le plan de Dieu était d'utiliser Jephté pour accomplir son œuvre, et c'est tout ce qui compte dans ce conflit. La présence de Jephté en tant que juge en Israël nous rappelle la honte de notre état de pécheur. Le fait que Jephté soit le fils d'une prostituée souligne et nous rappelle combien notre péché a retourné l'ordre établi par Dieu à la création. Jephté est un homme qui vit dans la honte culturellement parmi les gens de rien, qui vivent comme des pirates du désert. Et malgré cela, il se lève pour être juge en Israël. Il est préparé pour ce rôle à travers toutes les premières années de sa vie. Et il devient un bon négociateur, un vaillant guerrier. S'il avait grandi dans le confort et dans les richesses, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Sa vie l'a préparé, l'a qualifié pour être ce libérateur. Et Jephté est une ombre. Très pâle, mais il est une ombre quand même du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans le désert, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Il a été rejeté par les siens. Mais contrairement à Jephté, la vie parfaite et juste en tout point, l'a préparé pour son acte ultime, la mort d'un criminel, et l'a qualifié pour sa grande victoire. Mourir en portant les péchés de son peuple, ressusciter afin de pouvoir donner sa justice à son peuple et le conduire dans la paix véritable. Jephté est une ombre très pâle du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pousse à attendre un libérateur plus grand, plus parfait, Et nous le savons, ce libérateur est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux mentionne Jephté au chapitre 11, verset 32, dans ces héros de la foi qui nous ont précédés. Et s'il souligne par cela que par la foi des hommes imparfaits, comme Jephté, ont accompli de grandes choses parce qu'ils mettaient leur confiance dans la puissance et dans les promesses de Dieu, en risquant leur vie pour obéir au commandement de Dieu. Jephté est loin d'être parfait. On le voit déjà dans ce passage, on le verra encore, Dieu voulant, dans la fin de ce chapitre. Mais la grâce de Dieu est toujours disponible pour qu'un enfant de Dieu fasse de grandes choses pour lui. Alors que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, sur ce héros de la foi, aussi faible soit-il, mais qui nous aide à voir les erreurs et à éviter les mêmes erreurs que Jephté a pu commettre, et qu'il nous pousse à regarder vers notre libérateur, celui qui est parfait, celui qui nous a délivrés de l'esclavage, nous a libérés et a accompli une œuvre de libération totale. Celui qui est le Fils de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.